France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Il y a 2 ans exactement, le 7 octobre, l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas, 1219 morts, 251 otages, la terreur, l'effroi des victimes, de leurs familles, de la société israélienne, du monde à témoins, et les prémices d'une guerre, d'une vengeance qui entraînera la mort de 67 000 Palestiniens au moins. Alors face à cela, face à l'événement historique comme celui du 7 octobre, face à l'effroi soudain, à l'incompréhension, face aux mots imprononçables, face aux caricatures des positions, face aux statistiques glacées et glaçantes, face aux deuils nombreux et à l'histoire de chacun, face à l'histoire en somme, eh bien que peut la littérature, que peut la mise en récit par la fiction, qu'attendre du roman pour comprendre ce conflit et ce qui s'y est passé il y a 2 ans. Deux romancières pour nous éclairer. Nathalie Azoulay, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, votre dernier ouvrage s'intitule « Toutes les vies de Théo », il a paru aux éditions POL en janvier 2025, et je note également l'apparition en 2005 aux éditions Point Seuil du roman intitulé « Les manifestations ». Face à vous, Valérie Zenati, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes romancière, vous avez publié la semaine dernière le roman intitulé « La surprise » aux éditions Autrement. Vous êtes également l'autrice entre autres de « Qui vive » aux éditions Point en janvier 2025 et « D'une bouteille dans la mer de Gaza » en 2005 à l'école des loisirs. Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir. Et avant d'entrer dans le cœur de votre travail, de votre œuvre, de votre travail de fiction, avant de parler même de fiction, une question plus personnelle à toutes les deux. Comment est-ce que cet événement, le 7 octobre, le massacre terroriste qui a eu lieu et ses ramifications sont venus percuter vos vies? À quel niveau et de quelle façon, Nathalie Azoulay?
Alors moi, j'ai mis plusieurs jours à comprendre ce qui s'était passé. J'ai bien entendu souvent que les gens avaient tout de suite pris la mesure du massacre. Ça n'a pas été mon cas. Il m'a fallu vraiment quelques jours. Et une fois que j'ai pris cette mesure de ce massacre, de ce pogrom, de cet acte tout à fait inédit, eh bien, j'ai été frappée de la même stupeur et du même effroi que à peu près tout le monde autour de moi. Et j'ai commencé à entrer dans cette période de stupeur avec un peu des capteurs inconscients, c'est-à-dire je me suis assez vite retrouvée dans la position de l'observation. Sans doute c'est une position de défense. Elle permet de mettre de la distance entre soi et l'événement et l'émotion. Et donc j'ai ouvert mes capteurs et j'ai commencé à observer tout autour de moi les gens de divers milieux, de divers cercles, les proches, les moins proches, les juifs, les non-juifs. Et pendant 6 mois, en fait, je crois que j'ai engrangé ce matériau qui a donné ce roman. Mais il n'y avait aucune préméditation de ma part. Et à aucun moment, si on m'avait interrogé durant ces 6 mois, je n'aurais dit « je vais écrire un livre là-dessus ». Pas du tout. Donc j'ai été comme clivée, en fait, entre la part active qui prenait part à l'événement et à ses conséquences, et la part littéraire, la part de l'écrivain.
Comment est-ce que vous expliquez, Nathalie Azoulay, ce temps de latence? Comment est-ce que vous expliquez le fait que vous ayez le sentiment que tout le monde autour de vous mesurait l'ampleur du massacre et de ses conséquences, et vous, il vous a fallu tout de même un temps pour réaliser?
Mais parce que je crois que je n'avais pas toutes les informations. On a mis un peu de temps à avoir les informations. Et puis, encore une fois, c'était tellement inédit, c'était tellement stupéfiant tout ce qui s'était passé, que j'ai mis du temps à prendre la mesure de chaque, pas de chaque massacre, mais en tout cas de tous les détails du massacre. Et je crois que c'est en voyant des vidéos, j'avais eu le privilège, entre guillemets, d'aller voir des films qui avaient documenté le 7 octobre. Et une fois qu'on a le détail des sévices, le détail de la violence, le détail de la barbarie, je crois qu'on mesure à ce moment-là. Sinon, si on s'en tient aux 1200 morts avec des dates, des lieux et une espèce de vision globale, je crois qu'on n'entre pas dans le massacre tel qu'il a été perpétré.
Valérie Zenati, comment est-ce que vous êtes vous-même entrée, si je puis dire, dans ce massacre ?
Alors de manière différente, parce que bon, j'ai vécu 8 ans en Israël lorsque j'étais adolescente et j'ai un joueur de la famille, en l'occurrence ma mère et ma sœur, et beaucoup d'amis. Et donc j'ai été réveillée le matin du 7 octobre à 7h30, par un appel de ma mère. Je n'ai pas compris pourquoi elle m'appelait si tôt un samedi, jour de fête en Israël. Et donc, elle s'est mise à me dire qu'ils étaient attaqués, qu'il y avait eu des gens enlevés, brûlés. Je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. J'avais chez moi un ami israélien qui était arrivé la veille et dont la belle-sœur se trouvait dans le kibboutz de Be'eri, qui a été un des kibboutz attaqués. Il a tout de suite téléphoné à sa mère, lui, de son côté. Elle lui a dit, les terroristes du Hamas sont dans sa maison, ils ont mis le feu à la maison. Eux sont dans la chambre dite de sécurité ou l'abri et ils sont en train d'étouffer. Et ces informations en direct nous ont, enfin même quand j'en reparle évidemment, qu'il y a une forte émotion, nous ont littéralement percutés. On a commencé à chercher des informations sur Internet et à voir des informations qui nous semblaient totalement irréelles. Là où je suis d'accord avec, où je rejoins Nathalie Azoulay, c'est que même en étant, il se trouve que je lis l'hébreu, et donc j'ai tout de suite basculé, moi, sur des sources d'informations israéliennes. Dans Le Monde, je crois que le soir, et même dans Haaretz d'ailleurs, je crois que le soir même, on parlait de 70 victimes peut-être, vous voyez. Donc on a mis effectivement plusieurs jours à avoir le bilan définitif. Mais moi, ce que j'avais en direct, c'était la radio israélienne, la télévision, des appels en direct de gens qui étaient en détresse, qui appelé au secours, et ce que j'ai ressenti le 7 octobre, c'est qu'il y avait un peuple entier qui était attaqué et massacré, et qui était abandonné par son gouvernement, et en grande partie aussi par son armée. Et cette détresse-là m'a pénétrée d'une stupeur aussi, doublée évidemment des faits. Ensuite, je me suis sentie très vite, et je me sens toujours, convoquée par l'événement, parce que dès le 9 octobre, j'ai été sollicitée pour essayer d'apporter quelques éclairages, pas d'opinion, mais de l'éclairage sur ce qui se passait. Et je m'exprimais à partir de ce que je suis aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille cette région et ce qui s'y passe dans ses livres depuis 2005. Vous avez cité Une bouteille dans la mer de Gaza. Et dans ma vie intellectuelle, universitaire, depuis 1987. Donc, mon observation du Proche-Orient, même si je n'y vis plus depuis 91, est continue depuis plus de 30 ans. Et c'est à ce titre que je me suis retrouvée convoquée et je me suis sentie convoquée aussi pour que la pensée puisse s'articuler aux émotions. C'était une tâche pas facile.
Combien de temps vous a-t-il fallu, l'une et l'autre, pour mesurer que le 7 octobre serait une date clé, une date décisive dans le présent, dans l'histoire du Proche-Orient? Nathalie Azoulay, au fond, que cette date-là était d'ores et déjà un événement historique en train de se faire et de se construire?
Quelques semaines, et il se trouve que moi je suis allée en Israël au mois de décembre qui a suivi, pour donner une contribution, pour aider à récolter des fruits. Et je crois que c'est en arrivant là-bas, en fait, que j'ai compris l'ampleur. Je ne sais pas, parce que quand on a une mesure individuelle, c'est toujours très difficile de mesurer. Mais en tout cas, en me promenant, si on peut dire, dans la ville, en parlant avec les gens, en allant dans ces endroits qui étaient face à Gaza, en fait. Hein. Donc, c'est là où j'ai vu le traumatisme chez tout le monde, chez tout le monde. Et quand vous avez un peuple qui est traumatisé, mais vraiment de part en part, à ce moment-là, vous vous dites que oui, c'est une date historique. Mais bon, le fait d'être sur place aide, mais je crois quand même que dès novembre, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, j'ai compris que ce qui s'était passé était irréversible et monstrueux.
Valérie Zenati, les témoignages de vos proches, ceux que vous avez entendus au téléphone le samedi matin, cela vous a permis déjà de discerner l'ampleur des conséquences à venir, le fait que ce qui allait advenir, encore une fois, serait historique pour la région entière, pour les Palestiniens, pour les Israéliens en premier lieu, bien sûr, ce 7 octobre?
Oui, je crois que je l'ai ressenti immédiatement parce que j'ai vécu ces événements d'une certaine manière en direct, même à distance. Et vous avez évoqué tout à l'heure la surprise en faisant un lapsus, parce que ce n'est pas un roman, mais on est là pour parler de fiction, mais un essai. La surprise, c'est pas toujours une chose positive. Une attaque surprise dit bien son nom. La surprise est aussi une arme en guerre. Je crois que ce que j'ai ressenti ce jour-là, et je n'étais pas la seule, c'est que cette date allait entrer en moi de la même manière que d'autres dates étaient entrées, alors avec de nature différente, mais je pense au...
Vous voulez citer les dates,
voilà,
dans
le 11 septembre,
le 21 avril, le 13 novembre, le 24 février, le début de la guerre en Ukraine, le 7 octobre, oui. Kaboul, Téhéran, Gaza, Irpin, Mazan, Bétaram, sidération. Qu'est-ce qui se joue, écrivez-vous, avant la pensée, face aux images, aux événements, aux scènes qui surgissent, donnant le sentiment de transpercer le réel?
Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui nous rappellent que le temps est une matière continue, mais qu'à certains moments, elle est aussi le fait de ruptures très violentes. Et ces ruptures, je crois qu'on les ressent avant même de pouvoir les analyser, avant même de les comprendre, mais on sait, ou on peut savoir, en tout cas moi j'ai su et ressenti, on sait dans l'immédiat que plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que l'événement, cette irruption d'un événement inenvisageable, par définition l'avenir est toujours inenvisageable, mais certains événements le sont plus que d'autres, cette irruption de l'inenvisageable scinde le temps ou nous donne ce sentiment qu'il y a déjà un avant et qu'il y aura un après. Et ensuite, il s'agit d'intégrer tout ça, ce qui est effectivement très difficile. La surprise, c'est être pris au-delà de soi-même. Donc là, les dimensions de l'événement sont gigantesques. Et il m'a fallu aussi, dans un second temps, plusieurs jours, plusieurs semaines pour les mesurer. Mais aussi, j'ai su intuitivement, dans l'immédiat, que le Proche-Orient et que les Palestiniens aussi étaient entrés dans une ère de cauchemar. Et j'ai dit une phrase à l'époque qui a pu être mal interprétée, parce que c'était pas ce que je souhaitais, c'était ce que je constatais. J'ai dit, le Hamas, en faisant ça, a ouvert les portes de l'enfer pour le peuple de Gaza aussi. Et c'est évidemment ce qui s'est passé, voire une phrase qui a été reprise par Donald Trump encore récemment. C'est un fait que c'est dans le cauchemar qui a commencé à 6h29 le 7 octobre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, évidemment.
On y reviendra.
On y reviendra certainement. Mais il y a un cauchemar qui a commencé et dont on n'est toujours pas sorti, dont ils ne sont toujours pas sortis et auxquels nous assistons et auxquels nous essayons de réfléchir parfois.
Si je reprends l'expression de Valérie Zenati, un événement, le 7 octobre, qui donne le sentiment de transpercer le réel, Nathalie Azoulay, quel cheminement vous conduit à vous dire qu'il y a peut-être là matière à former une histoire, à rassembler les briques qui pourraient peut-être composer un roman et qui ont donné, quelques mois plus tard, cet ouvrage que vous avez fait paraître chez POL, intitulé « Toutes les vies de Théo ». Comment justement l'idée même de la fiction au sujet du 7 octobre, c'est en creux tout au long du roman, c'est jamais directement nommé, mais c'est quand même la toile de fond de ce roman. Comment est né justement ce cheminement ?
Par l'expérience, c'est-à-dire par les mois que j'ai traversés, où, comme je le disais tout à l'heure, j'ai observé, j'ai éprouvé, j'ai réfléchi et j'ai analysé autant que possible l'interaction qui s'était transformée en France. Moi, j'ai écrit un livre sur le 7 octobre français, pas du tout sur le 7 octobre en Israël. Ce sont les répercussions vraiment au sein d'une famille, d'un couple, de cet événement... qui est devenu historique, mondial et traumatisant.
Vu par un Français moyen, Théo, en l'occurrence.
Un Français moyen. C'était vraiment à partir du moment où je me suis dit, mais encore une fois, c'est venu avec l'expérience, c'est-à-dire plusieurs mois après, mais quand je me suis dit que j'allais écrire ça du point de vue, d'un point de vue décalé qui n'était pas le mien, qui était celui de gens qui étaient proches de moi, qui n'étaient pas juifs, qui assistaient à la stupeur, à l'hystérie, à l'angoisse des Juifs en France. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils voient en fait là-dedans? Qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? Est-ce qu'il y a un moment où cette angoisse est certes légitime, évidemment légitime, mais est-ce que pour eux elle devient invivable? Comment elle devient invivable? Est-ce que la solidarité se termine à un moment donné avec des proches qui sont Juifs? Et donc c'est à partir du moment où j'ai endossé ce point de vue de l'étranger qui est Théo, parce qu'il est français, parce que certes il a une forme de grande familiarité avec l'histoire juive, c'est un enfant d'une mère à moitié allemande qui a grandi la rédemption, enfin dans l'idée qu'il fallait réparer la Shoah, le crime européen, et qui a donc intégré toute cette mauvaise conscience, toute cette culpabilité, jusqu'à épouser une femme juive. Et donc au moment où survient le 7 octobre, sa femme est évidemment frappé de plein fouet, lui aussi. Mais c'est à ce moment-là que la crise existentielle arrive, en fait, entre eux, qui est plus qu'une crise de couple, hein, c'est pas une crise amoureuse, c'est une crise existentielle qui va ébranler, en fait, les fondations communes et qui va renvoyer chacun à une forme d'origine, à une forme de culture d'origine et personnelle et creuser une fracture, un gouffre entre eux.
Ce qui frappe dans votre roman, Nathalie Azoulay, c'est notamment le fait que vos personnages, notamment ce couple, l'un et l'autre, sont rattrapés et par l'histoire et par leur identité. Le Théo est rattrapé par l'histoire de sa mère, notamment l'histoire qu'elle lui inculque, l'histoire de la Shoah qui le hante, qui le culpabilise. Et dans le même temps, sa femme, celle qui deviendra sa femme, elle est rattrapée par son identité. Elle ne se sentait pas tellement juive avant le 7 octobre. Et c'est un événement qui la rattache considérablement et à son identité juive, et peut-être même plus encore à Israël.
Absolument. C'est-à-dire qu'elle est née dans une famille qui, certes, a été frappée par la Shoah, mais qui a fait tous ses efforts pour s'intégrer, pour devenir française à part entière, et pour un peu éloigner les fantômes. Et donc, ce personnage qui s'appelle Léa a grandi dans une forme d'indifférence ou de légèreté par rapport à l'existence d'Israël. Et ça n'était pas dans sa vie. D'ailleurs, elle a épousé un homme non-juif et elle a accueilli aussi avec beaucoup d'amour cette altérité-là, qui était certes une altérité de protection, mais aussi une altérité tout court. Et donc, c'est vrai qu'au matin du 7 octobre, quelque chose se réveille en elle qui n'était pas prévu et qui finalement la renvoie à cette histoire juive qui est celle de sa famille et la renvoie surtout à un « nous » qui n'est plus le nous du couple qu'elle a formé avec son mari Théo. Et évidemment que c'est un choc pour elle, c'est un réveil très brutal, très très sombre, et elle aurait aimé que les choses se passent autrement. Mais à ce moment-là, il y a une forme de décrochage entre eux, parce qu'elle se rend bien compte que lui vit tout ça sur le mode intellectuel, en fait. Et que elle vit ça d'une façon viscérale. Et que là où la souffrance passe par son corps et sa chair, elle ne passe pas comme ça dans l'esprit de Théo, qui justement reste un esprit plutôt qu'un corps à ce moment-là.
Dans Qui vive, Valérie Zenati, c'est peut-être le chemin inverse qu'emprunte Mathilde, votre protagoniste. Mathilde vit dans un monde chargé d'événements et des événements, j'allais dire qu'elle ne comprend pas tout à fait, qu'elle a besoin de décrypter, d'appréhender. Et pour cela, elle fait le chemin inverse, je disais, parce qu'elle ressent le besoin fondamental de se rendre en Israël pour justement tenter de prendre la distance nécessaire à la compréhension du monde contemporain dans lequel elle vit. Pourquoi opérer ce chemin pour Mathilde et qu'est-ce que justement ce voyage en Israël lui permet de comprendre fondamentalement ?
Alors c'est très troublant parce que Qui vive est un roman que j'ai écrit avant le
Absolument.
7 octobre et que j'ai terminé avant le 7 octobre.
Et je vous demanderai justement la façon dont peut-être vous pourriez relire ce livre au regard du 7 octobre, mais ce sera ma prochaine question.
Alors, Mathilde, c'est une professeure d'histoire géo qui est française, parisienne, qui est juive, mais on ne sent pas... D'ailleurs, elle est mariée aussi, elle est quand elle n'est pas. Julien, on ne sent pas cette dimension comme étant une donnée fondamentale de sa vie. Et elle est percutée à la fois, en 2016, par la première élection de Donald Trump et la mort de Leonard Cohen. Donc il y a un télescopage entre le poétique et le politique, la mort d'un poète, l'arrivée au pouvoir d'un homme brutal. C'est, disons, pour elle, elle identifie que quelque chose a basculé pour elle à ce moment-là, dans cette sidération-là de la première élection de Trump. Et puis ensuite, on arrive à la pandémie, qui, elle, est une sidération qu'on pourrait qualifier d'universelle et qui a donné le sentiment à certains en tout cas, qu'on sortait peut-être de l'histoire ou du conflit historique pour arriver à des questions qui nous concernaient tous et qui étaient planétaires, écologiques, climatiques, humaines, existentielles. Pour moi, je continue de considérer que cette période a été un bouleversement existentiel majeur. Et dans le sillage, alors que la pandémie n'était pas terminée, la guerre éclate, l'Ukraine est attaquée, par la Russie. Et donc là, sidération pour Mathilde, qui est professeure d'histoire géo, et qui a le sentiment qu'elle ne comprend plus rien, qu'elle n'est plus capable de déchiffrer, de décoder, et qu'elle n'est plus capable de se tenir face à ses élèves en disant, voilà, j'ai une grille de lecture qui est celle de l'histoire, et j'ai les clés. Or, Mathilde a un point commun avec moi, c'est qu'elle est née dans une famille croyante et qu'elle a perdu la foi vers l'âge de 10 ans et qu'elle s'en est remise à l'histoire en se disant que l'histoire était une manière de comprendre le monde et de se situer. Et là, il y a quelque chose qui la met en route, qui est une vidéo de Leonard Cohen concernant un concert qu'il a donné à Jérusalem en 72. Et on n'a pas le temps forcément d'évoquer, mais c'est une vidéo magnifique où il fait l'aveu, justement, de son impuissance sur scène. Et cet aveu d'impuissance la bouleverse, et elle se met en route vers Jérusalem pour aller à l'endroit où a eu lieu ce magnifique aveu d'impuissance. Et en Israël, arrivée là-bas, elle retrouve en quelque sorte le contact, non pas avec l'histoire d'abord, mais avec la géographie, puisqu'elle fait une sorte de road trip. Elle voit tout à coup le nom sur un panneau de Capharnaüm. Alors évidemment, Capharnaüm, voilà, non seulement c'est un mot en français, mais c'est un nom dans les évangiles. Et elle décide d'aller vers Capharnaüm. Elle se laisse porter par la géographie. Elle retombe sur l'histoire dans ce sens où elle va assister à une pièce de théâtre qui met en scène la chute du temple de Jérusalem. Tout ça nous semble bien loin puisqu'on est en 70 après Jésus-Christ. Or, cette chute du temple et cette destruction ensuite du royaume de Juda a des résonances, évidemment, mythologiques, littéraires, mais aussi historiques, avec le temps présent, c'est ce qui me semble en tout cas, parce que Israël, à l'époque, avant le 7 octobre, était pris dans des divisions inédites sur la qualification de ce qu'était cet État, sur le rapport de cet État au judaïsme, sur le rapport de cet État à la démocratie. Et c'était des divisions qui existaient en 70, avant la chute du Temple. Et donc ces échos, étonnamment, c'est pas étonnamment, j'ai juste ouvert mes oreilles, ont résonné en moi avant le 7 octobre et ont donné lieu à ce livre.
Est-ce que vous avez eu peur, Nathalie Azoulay, si je demande les choses d'une manière un peu franche et directe, peur d'écrire ce roman, plus encore de le publier? On sait que le débat était saturé aujourd'hui encore, mais peut-être plus au moment de la parution de votre livre, saturé justement de polémiques sur les mots, sur la façon de raconter cet événement. Est-ce que vous avez eu peur de la réception de l'un des tout premiers romans, à ma connaissance, français qui portait justement sur le 7 octobre?
Pendant que je l'écrivais, non. J'étais portée par un élan où je me suis dit, je vais ranger un peu ce que j'ai dans la tête et je vais ranger un peu l'événement, si on peut le ranger, en justement travaillant sur des interactions intimes et en essayant d'occuper à peu près toutes les places. Même si le point de vue central, c'est celui de Théo essaye de regarder un peu dans toutes les directions. Et en fait, j'avais le sentiment d'écrire à la fois sur le drame, sur la tragédie, mais de manière... Enfin, à la façon d'une comédie, avec une forme de désinvolture qui me permettait aussi une forme de distance. J'avais dans la tête le modèle de Lubitsch qui réalise en 42 To Be or Not to Be sur le nazisme, en décalant tout, en déplaçant tout. Et en fait, je voulais faire un peu la
comédie
même chose.
Comédie par le décalage, hein, plus que par l'humour, parce qu'on rigole quand même pas
non,
à chaque page.
On ne sort pas de rire, mais il y a quand même une forme de désinvolture et de temps en temps de l'ironie. Et c'était ma façon à moi d'y aller avec une forme d'aisance, en fait. C'est-à-dire que je me sentais pas du tout gênée aux entournures. Donc, pendant que je l'écris, je n'ai pas peur. Et quand je le remets à mon éditeur et que mon éditeur le lit, il me dit tu vas sûrement subir pas mal de réactions. Et en fait, ce qui s'est passé n'a pas du tout été comme ça. C'est-à-dire que le livre a été très bien reçu, vraiment partout. Et à tous les endroits de la presse, si on peut dire. Et en fait, après coup, je me suis dit que j'avais quand même fait en sorte qu'il y ait une forme de plasticité dans le roman pour que justement, on y lise plusieurs positions, plusieurs types d'observations et que ça donne un peu le maximum du spectre sur cet événement et sur les réactions et les répercussions qu'il a eues.
Vous avez beaucoup écrit, Valérie Zenati, sur la région, sur Israël, plus encore, hein, En retard pour la guerre, Une bouteille dans la mer de Gaza, Quand j'étais soldate, ce dernier ouvrage datait de 2006. Vous avez dit tout à l'heure, le 7 octobre, ce n'était pas le début. Vous en êtes d'ailleurs, j'allais dire, la preuve vivante à travers ces textes, à travers votre engagement. Est-ce à dire que le 7 octobre, c'est la continuation justement d'une histoire bien, bien plus longue où, dans le fond, il faut y voir, selon vous, une rupture fondamentale et une rupture de choc qui, j'allais dire, permet non pas de jamais d'expliquer, mais en tout cas qui tisse la suite de cet événement dans la société israélienne.
C'est pris évidemment dans une histoire qui a commencé avant. Alors comme on dit en journalisme, ça a ouvert une nouvelle séquence, mais bon, c'est un terme bien pauvre par rapport à la somme de souffrances, de violences, de destructions intimes, psychologiques, physiques, qu'ont subi les Israéliens de manière très condensée le 7 octobre, et puis ensuite, depuis, avec cet abandon des otages, etc., et que vivent les Palestiniens depuis le 8 octobre. Donc c'est le mot séquence, évidemment, on l'utilise. Ça a ouvert quelque chose. Mais bien entendu que les choses n'ont pas commencé là, et qu'on peut remonter au moins un siècle en arrière. Maintenant, moi, quand j'ai écrit Une bouteille dans la mer de Gaza, je l'ai commencé en 2003. Alors pourquoi j'ai écrit des livres qui se situent là-bas ? Pas parce que c'est mon unique sujet de préoccupation, et je cherche dans mes livres à trouver aussi de l'humain, du singulier, de l'universel. D'ailleurs, Une bouteille dans la mer de Gaza, bon, c'est un livre qui a été traduit dans 18 langues. Il a eu un succès fou en Corée du Sud parce que les Coréens s'identifiaient beaucoup à mes personnages. Et ça m'a vraiment touchée. Parce qu'ils transposaient quelque chose de leur histoire différente, mais également coupée en deux entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là où je rejoindrai Nathalie Azoulay, c'est que moi j'ai eu très peur quand Une bouteille dans la mer de Gaza est sortie, parce que j'avais peur de me prendre des coups de toutes parts, et évidemment j'allais être traitée par les uns de pro-palestinienne et par les autres de pro-israélienne. Or moi je me situe à l'endroit qui est celui de la frontière et du désir par la fiction, comme l'a fait Nathalie autrement dans son livre, d'embrasser des réalités différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écriture de La bouteille à ce moment-là, c'était l'expression d'une très vive inquiétude. Parce que moi j'ai connu un autre Proche-Orient, au moment du processus de paix, au moment des accords d'Oslo, avant cela, au moment de la première intifada. J'ai connu différentes périodes dans cette région. J'ai vu qu'il y a des choses qui étaient possibles, et puis que d'autres, et que certains s'acharnaient à rendre impossibles. Aujourd'hui, au pouvoir, des deux côtés, on a les assassins des accords d'Oslo. Et quand j'ai écrit Une bouteille dans la mer de Gaza, c'est parce que j'ai identifié un endroit où la diabolisation de l'autre prenait le pas sur tout. Où tout à coup, or ça n'a pas toujours été le cas, pour les Palestiniens, un Israélien c'était forcément un soldat sanguinaire, et pour les Israéliens, un Palestinien c'était un terroriste sanguinaire. En particulier, c'était une étude qui avait été faite sur les enfants qui avaient 8 ans à l'époque. Et là j'ai pensé aux jeunes. Pourquoi aux jeunes ? Parce que beaucoup de gens ignorent que ces peuples sont jeunes politiquement, mais ils sont jeunes démographiquement. À Gaza, la moitié de la population a moins de 18 ans. En Israël, la moitié de la population a moins de 28 ans. En France, il faut monter à 44 ans pour avoir cet âge médian. Et donc, j'ai pris ces personnages jeunes et j'ai essayé de leur donner une voix parce que je sentais que si on ne réparait pas, au moment de la deuxième intifada, cette diabolisation, alors on ouvrait la voie à quelque chose de bien pire. Donc oui, il y a des enchaînements qui sont sur le temps long et puis tout à coup, dans le temps bref, dans l'immédiat, on a quelque chose qui arrive et qui effondre de nouveau... Qui effondre et qui détruit.
Si je pose ma question d'une manière encore plus directe, Nathalie Azoulay, il y a un débat autour de cette date, le 7 octobre. Est-ce que c'est, selon vous, le début de la guerre à laquelle on assiste aujourd'hui, ou c'est une étape de cette guerre qui avait commencé bien avant le 7 octobre 2023 ?
C'est pas une étape, pour moi c'est une rupture. C'est-à-dire que tout ce qui avait eu lieu avant, c'est-à-dire des guerres entre armées, des attentats terroristes sur des bus, des boîtes de nuit, des cafés, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire une séquence purement génocidaire avec des gens qui ont surgi, qui ont coupé des têtes, cloué des vagins. Enfin, tout ça n'avait jamais eu lieu à cette échelle-là. Donc pour moi, c'est une séquence vraiment unique.
Et vous qualifiez de génocidaire ?
Ah ben, elle a été qualifiée comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a pas tué des Israéliens, on a tué des Juifs. Et pour ce qu'ils étaient, non pas pour ce qu'ils avaient fait. Encore une fois, dans les kibbutz, c'était des kibbutz pacifistes de l'ultra-gauche israélienne. Et les jeunes de la rêve n'étaient pas des soldats en armes. Donc, à ce moment-là, on a tué des gens pour ce qu'ils étaient. Et donc, pour moi, c'est une étape... ce n'est pas une étape, c'est vraiment une séquence de rupture. Et la question d'après, c'était...
Non, mais je vais d'abord vous faire réagir à cela. Est-ce que vous utilisez aussi ce terme de génocide, de démarche génocidaire, pour ce qui se passe à Gaza ?
Non.
Pourquoi ?
parce que d'abord il n'y a pas que moi qui ne l'utilise pas, c'est-à-dire la Cour pénale n'a pas statué et c'est une armée qui essaye, enfin c'est le piège du Hamas qui s'est ouvert et qui a placé ses civils en position de bouclier et donc voilà, l'armée fait des dégâts, les morts palestiniens sont un drame, il n'y a pas d'autre mot pour ça, les enfants, tout ce que vous voulez, tout ce qui est détruit est dramatique, mais je ne qualifierai pas ça de crime génocidaire, crime de guerre certes. Et donc,
Valérie Zenati, ouais. Vous souhaitiez réagir?
Oui, alors j'ai une autre position, mais nous ne sommes ni l'une ni l'autre historienne. Mais quand on regarde, par exemple, la façon dont la Cour pénale internationale a qualifié les faits le 7 octobre, parce qu'on s'en est pas beaucoup préoccupé, on a vu la façon dont elle qualifiait ce qui se passait à Gaza, notamment, par exemple, la privation d'aide humanitaire est un crime contre l'humanité, mais la Cour pénale internationale, sur le 7 octobre, a été très claire aussi sur les crimes contre l'humanité, tout constituer les viols, etc. On sait qu'en fait, le terme de génocide est plus difficile à employer juridiquement. En tout cas, la Cour pénale ne l'a pas utilisé comme tel. Parce que j'en discutais avec un des avocats qui représente justement les familles des victimes du 7 octobre auprès de la Cour pénale. Là où on n'a pas assez mis en lumière quelque chose, Nathalie Azoulay, et beaucoup des auditeurs ne le savent pas, c'est que, je le sais, mais on le sait peu, et c'est peu dit, le 7 octobre, il y a eu 70 Palestiniens israéliens tués par le Hamas. Et il y a eu aussi des Népalais, des Philippins, des Thaïlandais. Et ces 70 Palestiniens israéliens, ils sont d'origine palestinienne, ils ont la nationalité israélienne, ils sont, comme je le dis très souvent, totalement invisibilisés. Alors que c'est 20% de la population. Il y a eu une famille d'otages avec une jeune femme voilée, qui était prise en otage par le Hamas. Et donc, il me semble, mais le débat est très difficile à avoir parce que on est très souvent ancré dans des visions du passé. C'est un peu ce que Jean Kielevitch m'a appris, si j'ose dire. On reste parfois sur des images qu'on a et on ne part pas du réel, on fait pas de phénoménologie. Mais en réalité, et c'est pour ça que, bon, je citerai pas l'avocat en question, mais je pourrais vous le dire hors micro, mais il dit c'est difficile peut-être de qualifier le 7 octobre d'acte génocidaire parce qu'il n'y a pas eu que des Juifs. Ce sont des Israéliens qui ont été tués. Ce sont des Israéliens. Il y a eu, à bout portant, c'était pas au hasard, il y a eu, j'ai vu des vidéos de Palestiniens israéliens qui étaient face aux terroristes du Hamas, qui leur parlaient en arabe, qui montraient leurs papiers, qui disaient « je suis palestinien », ils se faisaient rouer de coups et tuer à bout portant. Et donc, ce crime-là de ces 70 personnes, parmi les 1200, et qui est la proportion des Palestiniens israéliens, je veux dire, a été évacué dans le récit de toutes parts, des non, pros, si des gentils, etc.
Si je peux intervenir, en fait,
Nathalie Azoulay.
Certes, mais ils étaient associés aux Israéliens, c'est-à-dire qu'ils étaient jugés comme
Israéliens, des Israéliens.
Oui.
Il y a justement la confusion existe de toutes parts. Bien sûr qu'Israël est un État à majorité juive, mais c'est l'État d'Israël qui, juste à nouvel ordre, a au sein de sa population des gens qui ont des origines différentes, des religions différentes. Et quand vous voyez des panneaux en Israël, ils sont écrits en hébreu, en arabe et en anglais. Et donc, là, si on revient à la question du récit, pardon, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Si on revient à la question des récits, je pense que ces récits-là, concernant cette population-là, n'ont pas été assez faits. Qu'on n'a pas assez prêté l'oreille aussi au récit des otages qui sont rentrés, qui ont raconté des horreurs, qui ont raconté de la maltraitance, mais aussi parfois, moi j'ai lu et écouté, mais aussi parfois des éclats d'humanité au milieu de ce cauchemar qui ont existé, ce sont eux qui les racontaient, ce sont pas moi. Et donc nous sommes écrivaines. Et en tout cas, moi ce que je sais, c'est que après le 7 octobre, j'ai pas été capable d'écrire un roman, j'ai écrit cet essai sur la surprise pour soustraire la surprise à sa part sombre et essayer de pousser à une réflexion un peu vibrante et vivante sur cette notion-là de sidération, qui peut être aussi parfois de l'émerveillement. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'un jour, il y ait les récits aussi des toutes petites étincelles qui ont existé. On l'a fait sur la Seconde Guerre mondiale, bien après coup, on a parlé des justes. Et un jour, peut-être, on racontera aussi ces histoires qui montrent la part d'humanité qui a pu exister aussi à Gaza en 2024. Et je terminerai sur une chose qui me tient à cœur, c'est que je pense que le mal, dans cette histoire-là, il a été radical le 7 octobre. Il est radical depuis, dans des bombardements qui tuent des familles, mais il n'est jamais absolu. C'est-à-dire qu'il y a toujours autre chose que le mal qui existe existe aussi au même moment dans ces régions.
Et c'est peut-être justement, j'allais dire, la force des récits et la force du roman, d'écrire cette complexité, d'écrire les parements de lumière de chacun des deux côtés. Nathalie Azoulay, vous souhaitiez réagir un peu plus tôt, je vous cède la parole.
Oui, mais en fait, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'était que le 7 octobre, certes, avait fait rupture, et surtout que le 7 octobre était la cause de la guerre. Et non pas une étape avant. C'est la cause de la guerre qui a toujours lieu aujourd'hui. Donc, et cette causalité, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Quant aux éclats d'humanité, certes, nous sommes des êtres humains, donc de temps en temps, il y a un éclat qui scintille. Et notamment, par exemple, dans le témoignage de Shahabi, là, qui vient de paraître, il raconte en effet que quand il est détenu par des Palestiniens de Gaza, de temps en temps, il croise le regard du père de la famille qu'il détient, et il y a une forme de douceur. Il n'empêche que la violence prime.
Évidemment, pour l'instant, ce qui prime, c'est la violence et la douleur. Mais on peut prêter l'oreille ou le regard à certaines choses.
Je voudrais vous faire entendre la voix de l'écrivain Amos Oz, poète, romancier, essayiste israélien, à l'occasion de la publication de son roman Judas. C'était en octobre 2016, dans le temps des écrivains sur France Culture.
Dans une histoire, on ne gagne pas avec les pistolets, on n'impose pas une histoire à coups de revolver. Il faut trouver une autre histoire. Et tout au long de l'histoire, la seule manière de faire arriver une histoire, c'est d'essayer de raconter une histoire meilleure. C'est ce qu'il faut chercher aussi maintenant. C'est ce que mon roman tente de faire au lieu de l'histoire horrible sur le baiser du traître, sur l'argent, sur le meurtre de Dieu. Voilà, nous, Shmuel et moi-même, nous essayons de raconter une histoire meilleure. Il n'y a pas de meilleure façon de se battre contre une mauvaise histoire que de chercher une histoire meilleure.
Que pensez-vous, Valérie Zinati, de cette idée ? Une histoire meilleure sur le plan moral, hein, c'est comme ça qu'il le décrit.
Oui, moi je ne sais pas si mes histoires sont morales, mais je sais que dans cette région, il y a une somme de charges religieuses, philosophiques, métaphysiques. Les gens n'ont pas toujours les épaules assez solides pour porter tout ça, parce que c'est épuisant de vivre dans des lieux aussi chargés et aussi violents aujourd'hui. Là où la littérature, effectivement, peut tirer un fil, c'est en ouvrant sur des échos, sur de l'humanité. C'est ce que je suis aussi la traductrice d'Aaron Appelfeld. C'est ce que fait Aaron Appelfeld sans naïveté aucune dans ses romans. Mais il fait face au mal et à la Seconde Guerre mondiale et aussi à ces étincelles, à rendre parfois l'histoire un peu plus douce ou sensible. Je dirais sensible. En fait, j'en appelle au sensible. Je pense qu'il faut en appeler au sensible. Pour relier la raison, il faut d'abord être en prise avec le sensible.
Nathalie Azoulay, la sensibilité ou la morale alors ?
Je dirais ni l'une ni l'autre.
Vous avez le choix de dessiner votre propre voix.
Non, la littérature malheureusement ne peut pas grand-chose. Moi, ce à quoi elle me sert, c'est à ranger un peu le désordre du monde. Donc dans ce livre, j'ai essayé... Encore une fois, en organisant des interactions et des relations entre plusieurs personnages, de comprendre ce qui se passait à tous les endroits de la scène. Après, est-ce que ça rend l'histoire meilleure ? Je n'irai pas jusque-là.
Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cet événement il y a 2 ans déjà, le 7 octobre. Le 7 octobre et ses ramifications en Israël et en Palestine. Nathalie Azoulay, je signale la parution, c'était en janvier dernier, de Toutes les vies de Théo, c'est aux éditions POL. Et Valérie Zinati, romancière, et la publication de cet essai intitulé La Surprise, c'est aux éditions Autrement. Merci à vous deux
merci.
Et merci à celles qui ont fait cette émission, Juliette Mouelik, Stéphanie Villeneuve, Diane de Vincey. À suivre après le journal, une question, une autre. Pourquoi l'immigration est-elle affaire de morale ? La morale encore.